Épître de Paul aux Éphésiens, chapitre 1er, verset 3. « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes en Christ. Amen. » L'apôtre Paul, dans cette épître aux Éphésiens, a pour but de placer l'Église en haut, dans le ciel, ce qui est sa place, ce qui est sa position. Nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Nous ne sommes pas d'ici-bas, nous n'appartenons pas à ce monde, mais nous sommes avec Christ dans les lieux célestes. Et l'apôtre Paul, commence cette épître en disant que nous, ses enfants, nous, son peuple, nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. Il y écrira aux Colossiens que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Et n'oublions jamais, mes frères et sœurs, que la volonté de Dieu, ce n'est pas que nous souffrions. Dans le livre de Job, un des amis de Job dira que l'homme est né pour souffrir, mais ce n'est pas la vérité. La volonté de Dieu, c'est de nous bénir, c'est que nous soyons heureux, c'est que nous vivions de manière prospère. La volonté de Dieu, ce n'est pas que nous soyons la queue, mais la volonté de Dieu, c'est que nous soyons la tête. La volonté de Dieu est que son peuple soit béni. Et l'apôtre Paul met l'église d'Éphèse devant cette réalité spirituelle. Vous êtes bénis de toute bénédiction spirituelle. Nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. Je crois que l'Esprit de Dieu, ce matin, veut nous remettre en face de cette position, veut nous remettre en face de cette réalité. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis par notre Dieu. Nous sommes bénis par notre Seigneur. Trop souvent, les circonstances de la vie, je crois, fait que nous l'oublions. Trop souvent, le diable voudrait nous faire douter de cette réalité en mettant en lumière nos manques, en mettant l'accent sur ce qui nous semble nous manquer. Mais la parole de Dieu, qui ne ment pas, nous déclare solennellement qu'en Jésus-Christ, nous avons tout pleinement. Et la question que je me suis posée, c'est que lorsque nous nous retournons, nous voyons qu'effectivement Dieu nous a bénis. Un a été guéri, l'autre a connu une restauration dans son couple, le troisième a connu des victoires dans le domaine professionnel, dans le domaine familial. Et puis tout au long de notre vie, nous avons vu la main de Dieu se poser. Lorsque nous regardons en arrière, nous avons vu que le Seigneur nous a toujours tenus. Nous observons que le Seigneur a toujours veillé sur nous, a toujours veillé sur nos cœurs, a toujours veillé sur nos vies. Effectivement, Seigneur, tu nous as bénis. Effectivement, Seigneur, tu nous as bénis. Mais nous savons comment favoriser la bénédiction, au travers d'une certaine piété, au travers d'une obéissance, au travers d'une certaine persévérance. Mais la réflexion que j'aimerais mener avec vous ce matin, c'est finalement, est-ce que la bénédiction produit quelque chose chez nous ? La belle-mère de Pierre, lorsqu'elle va être guérie, que va-t-il se passer ? Instantanément, elle va se lever et elle va servir Jésus. La Samaritaine, lorsqu'elle va connaître le salut qui était en Jésus-Christ, elle va aller le proclamer partout dans son village. Nombre de malades, se sont attachés au pas du maître. Les premiers chrétiens, lorsqu'ils ont entendu le message de la croix et qu'ils ont entendu qu'effectivement ils étaient bénis en celui qu'ils avaient crucifié, ont formé l'Église et se sont consacrés. Donc, la bénédiction, nous le voyons, génère normalement un mieux, génère une forme de sanctification, génère une forme de mise à part, génère une action. L'auteur aux Hébreux dira au chapitre 12, au verset 28, « C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance. » Montrons notre reconnaissance. Et lorsque j'examine ma vie, lorsque j'examine un petit peu ce que le Seigneur a fait en moi, je me pose la question suivante, et je vous la pose de ce fait. Est-ce que les bénédictions de Dieu ont toujours produit un effet positif, ont toujours généré une action, ont toujours généré finalement un mieux, un pas de plus vers Dieu ? Est-ce que j'ai gardé ces bénédictions ? Est-ce qu'elles ont servi de base ? Est-ce qu'elles ont servi de ciment à une évolution vers le Maître ? Est-ce qu'elles ont nourri ma foi ? Est-ce qu'elles ont finalement généré une œuvre du Saint-Esprit en moi, permis une œuvre du Saint-Esprit en moi? Est-ce qu'elles ont ouvert des portes qui ont permis au Seigneur de travailler plus en profondeur? Bien souvent, nous pouvons nous trouver vides. Alors que nous sommes bénis. Quel paradoxe! Mais peut-être est-ce tout simplement parce que nous avons manqué de lucidité, d'expérience, de vigilance quant à la gestion de ce que notre Dieu nous avait donné. Alors, la problématique qui est la suivante, c'est comment bien vivre les cadeaux de Dieu. Comment faire en sorte que les cadeaux de Dieu non seulement me fassent du bien d'une manière ponctuelle, mais surtout, eh bien, qu'ils permettent à ma foi de devenir plus stable, plus forte, plus solide, et de grandir dans la connaissance du Fils de Dieu. Premier axe, il est classique. C'est tout simplement la reconnaissance. Pour bien gérer la bénédiction, il faut un cœur qui soit reconnaissant. L'apôtre Paul écrira aux Colossiens, chapitre 3, verset 15, « Soyez reconnaissants. » Amen. Aux Thessaloniciens, il dira « En toutes circonstances, rendez grâce. » Et dans le cœur des enfants de Dieu, il doit y avoir cette volonté, je pense, de repasser sur leur cœur eh bien, tout ce que le Seigneur a fait pour eux. Tout ce que le Seigneur a fait pour eux il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, il y a 5 ans, ça doit être quelque chose de frais, ça doit être quelque chose d'authentique. Le salut doit rester quelque chose de frais. Est-ce que la croix est encore quelque chose de frais en nous? Ou alors est-ce que c'est un objet que l'on a déposé dans un coin de notre vie, auquel on se réfère de temps en temps pour enlever un petit peu de poussière? Ou est-ce que c'est un lieu qui vit encore en nous? Est-ce que l'œuvre de Jésus vit en nous? Est-ce que la conversion est encore un sentiment frais en nous? Parce que nous l'alimentons avec cette reconnaissance. Pour bien se souvenir de quelqu'un ou de quelque chose, on met une photo. On garde un souvenir, de manière à maintenir le souvenir de la personne que l'on aime frais dans notre cœur. Je crois que dans la prière, dans notre relation avec Dieu, il est nécessaire d'être capable de repasser tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Et en faisant ainsi, eh bien, on se garde de deux travers. Le premier, c'est que le manque de reconnaissance nous entraîne bien souvent vers le péché. Quel est l'exemple qui vous vient à l'esprit? Classique. Non? Il n'y en a pas? Le peuple d'Israël avec la manne. Manque de reconnaissance nous replonge dans notre passé. Voici que tous les jours, le peuple dans le désert se levait et puis ils allaient ramasser ce miracle qui tombait du ciel. Sur ce pain-là que Dieu leur envoyait. Puis au bout d'un moment, ils en ont eu assez et qu'ont-ils dit? Nous en avons assez de ce pain misérable. Alors qu'ils vivaient le miracle de Dieu, alors qu'ils vivaient cette bénédiction particulière de la part de Dieu, ils n'ont pas su le garder. Tout simplement parce que dans leur cœur, ils n'ont pas cultivé la reconnaissance. Seigneur Jésus, dans le Notre Père, nous enseigne à demander à notre Père, notre pain quotidien. Je crois que nous avons également vocation à remercier notre Père pour le pain quotidien qu'il nous donne. À remercier chaque jour notre Dieu eh bien, pour le souffle de vie qu'il nous accorde. Et à repasser chaque jour eh bien, les bontés de Dieu dans notre cœur. Parce que sinon, un jour, eh bien, comme le peuple d'Israël, nous pourrons dire « J'en ai assez de cette église misérable. J'en ai assez de cette vie chrétienne misérable. J'en ai assez de ce Dieu misérable. » J'en ai assez de cette famille misérable. J'en ai assez de ces enfants misérables. Parce que nous n'aurons pas cultivé dans notre cœur que ce que nous considérons comme de la misère aujourd'hui, en réalité, c'est un cadeau, c'est un don que Dieu nous a fait. À partir du moment où il n'y a pas de reconnaissance, les choses sont banalisées, elles deviennent normales. La grâce devient quelque chose de normal, alors qu'à la base, c'est un miracle. Et nous nous mettons à aspirer à quoi? À la viande d'Égypte. Un grand retour en passé, un grand retour au passé. C'était mieux avant. Je vis le miracle, mais finalement, c'était mieux quand je ne le vivais pas. Tout simplement. Parce que la paix que nous vivons aujourd'hui est un état et que nous n'avons plus conscience de la vivre. La relation restaurée avec Dieu devient un état et nous n'avons plus forcément conscience de le vivre parce que nous ne nourrissons pas notre cœur avec cette reconnaissance. Seigneur, je veux repasser tout ce que tu as fait pour moi. Je veux repasser tout ce que tu as fait de moi. Seigneur, je veux repasser sur mon cœur le changement qu'il y a eu dans ma vie. Je veux repasser sur mon cœur le changement qu'il y a eu dans ma famille. Je veux repasser le changement qu'il y a pu y avoir autour de moi. Je veux repasser le changement qu'il y a pu y avoir. Mes chaînes ont été brisées. Seigneur, aujourd'hui je suis en paix. Moi qui avais peur de la mort auparavant, maintenant Seigneur, je suis en paix. Je l'avais oublié ça. Mais Seigneur, maintenant je suis en paix. Seigneur, je veux être un enfant reconnaissant. Et ainsi, la bénédiction, nous la nourrissons. Ainsi, nous nourrissons notre âme de la bénédiction, nous nourrissons notre foi. Second risque qui nous guette lorsque nous ne cultivons pas cette reconnaissance, c'est que ça ouvre une porte au diable et que ça lui permet d'influencer notre avenir. Adam et Ève, ils avaient tout dans le jardin. Dieu leur avait dit, vous pouvez manger de tous les fruits. Fabuleux comme permission ça. Vous imaginez, on vous met dans Paris 10 et on vous dit, vous pouvez utiliser toutes les boutiques et tout le supermarché comme vous le voudrez, sauf le rayon chocolat. Même si on vous disait sauf le rayon céleri, je pense qu'à un moment ou un autre, on risquerait d'avoir envie de céleri. Ils pouvaient se nourrir de tous les fruits du jardin. Ils pouvaient être ensemble, heureux, tranquilles, sans dispute, sans conflit, etc. Ils pouvaient parler avec Dieu librement. Dieu venait voir Adam ce soir. Là. C'était fabuleux. C'était quelque chose d'extraordinaire. On ne sait pas combien de temps a duré d'ailleurs. Puis, à un moment donné, c'est devenu normal. Ils n'ont jamais connu autre chose, remarquez. Le diable a saisi l'occasion. Puis, qu'est-ce qu'il a dit à Ève ? Il a dit, tu sais, tu pourrais être mieux. Tu pourrais être beaucoup mieux. Tu pourrais être comme Dieu. Si jamais tu croquais de ce fruit-là dont tu n'as pas le droit de toucher, de ce chocolat divin-là dont tu n'as pas le droit de toucher, tu pourrais être beaucoup mieux. Et Ève s'est dit, ah ouais, je pourrais avoir un futur beaucoup mieux que celui que j'ai. Et clac, nous voilà aujourd'hui tels que nous sommes. Parce que Adam et Ève n'ont pas su se contenter finalement de ce qu'ils avaient. Israël a voulu un roi comme les autres nations. Alors qu'ils avaient, ils étaient sous une théophanie. Je crois que lorsque dans nos cœurs, il n'y a pas de satisfaction, de contentement, comme dira l'apôtre Pierre, de ce que nous sommes, il se produit quelque chose. C'est que nous voulons nous créer un avenir meilleur, alors que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, alors que nous avons le bonheur en Jésus-Christ. Le peuple d'Israël avait oublié les coups de bâton, Adam et Ève vont connaître un avenir bien plus douloureux, et de ce fait vont nous faire connaître un avenir beaucoup plus douloureux. Voyez-vous, mes frères et sœurs, la reconnaissance est utile à tellement. La reconnaissance nourrit notre foi et nous inscrit dans un cercle vertueux. Dieu m'a béni, il a pris soin de moi hier. Je le rappelle à mon cœur, ce que je veux repasser sur mon cœur, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme, mais que quoi ? Elles se renouvellent chaque matin. Ce que je veux repasser, ce que je repasse sur mon cœur. Parce que Dieu m'a béni hier, alors il continuera à me bénir aujourd'hui. Parce qu'il a pris soin de moi hier, il continuera à prendre soin de moi aujourd'hui. Parce que, et finalement, il a été présent hier, il sera présent demain, j'en ai la certitude et j'en ai l'assurance. Mon Dieu n'a pas changé. Mon Dieu n'a pas changé. Parce que je me souviens de ce qu'il a fait pour moi. Parce que je me souviens de son œuvre en moi. Parce que je me souviens de ce qu'il a accompli dans mon cœur et dans mon être. alors que son nom soit béni. Celui qui m'a rendu vainqueur hier continuera à me rendre vainqueur demain. C'est là mon assurance et c'est pour ça que je le suis. Alors, lorsque tu reçois quelque chose de la part de Dieu, bénis-le. Je me souviens de cette femme, c'est une petite parenthèse que j'ouvre, qui avait tellement souffert du célibat. Elle avait souffert du célibat. Et puis, un jour est venu celui qui était le sien. Et elle s'est mariée et au bout de 2 ans, elle se plaignait de son mari. Et mon père, à l'époque, lui a rappelé ô combien de fois qu'en Égypte, sa situation était bien plus compliquée. Que dans son passé, sa situation était bien plus compliquée. Mais rien n'y faisait. Et résultat, elle était malheureuse dans son célibat et elle a été malheureuse dans son couple. La bénédiction de Dieu, eh bien, ne lui a pas suffi. Elle n'a pas su l'entretenir. Alors qu'elle avait tout pour être heureuse. Absolument tout. Absolument tout. Deuxièmement, pour bien gérer la bénédiction que Dieu nous donne et pour la conserver, pour qu'elle nous serve à quelque chose, il est nécessaire de rendre ce que nous avons reçu. Les grâces ou les cadeaux de Dieu ne nous appartiennent pas. Nous sommes quoi ? Nous sommes des intendants. Nous devons gérer. Gérer ce que Dieu nous donne, fidèlement. Parce qu'un jour, le Maître reviendra et nous demandera des comptes. Nos vies ne nous appartiennent pas. Mais elles appartiennent à celui qui est notre maître. Et nous devons les gérer en le sachant. Et l'un des principes de gestion, enfin l'un des principes qui sous-tend le principe de gestion que nous allons voir tout à l'heure, c'est que la bénédiction n'est pas un dû mais une grâce. C'est toujours bon, j'aime bien le repréciser ça. Dieu n'est pas obligé de nous bénir. Si, je t'assure, mon frère, ma sœur, Dieu n'est pas obligé de te bénir. Dieu n'est pas un distributeur dans lequel on met une pièce. Non. Mais ce qu'il te donne, c'est un cadeau. C'est une grâce, c'est par grâce. De la même manière que les enfants ne sont pas obligés de recevoir systématiquement ce qu'ils veulent, parce que sinon, on serait vite ruinés. Mais vous qui êtes de bons parents, vous leur donnez ce qui leur est nécessaire. Et souvent un petit peu plus parce que vous êtes extraordinaires. Et donc, nous sommes des intendants qui recevons des grâces de la part de Dieu, des cadeaux de la part de Dieu, des choses que nous ne méritons pas. Et je vous le rappelle, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Et de base, soutiennent le principe de gestion divine. Le premier base, c'est ce que j'ai appelé le multiplicateur d'investissement. Pour vous qui êtes économiste, qui avez quelques notions d'économie, vous verrez à quoi je fais référence. C'est une notion keynésienne. Dieu nous donne afin que nous puissions donner à notre tour. Dieu ne nous donne pas simplement pour notre bonheur, bien que cela puisse y contribuer, mais Dieu nous donne afin que cela puisse servir à d'autres, afin que cela puisse servir à l'investissement, à l'avancement de son règne. Dieu nous bénit afin que nous soyons un outil de bénédiction et que nous rendions, sous une forme ou sous une autre, ce qu'il nous a accordé. Et à partir du moment où j'applique ce principe, je peux avoir l'assurance que mon Dieu, finalement, tu diras, t'es un bon intendant, toi. D'accord. Je vais encore t'utiliser un petit peu. Je vais donner un peu de cash pour mettre dans l'économie réelle, dans l'économie spirituelle. Dans la Bible, on a un homme qui a extrêmement mal géré son capital, c'est Samson. Samson, ça veut dire quoi ? Petit soleil. Et Samson est né, a été mis à part dès le sein de sa mère, avec un but pour commencer à délivrer le peuple d'Israël. Et durant toute la vie de Samson, on s'aperçoit d'une chose, c'est que ce capital, il ne l'a investi que pour lui. À aucun moment, on ne l'a vu travailler au salut du peuple. Mais lorsqu'il va tuer ses 1000 hommes avec cette mâchoire d'âne, c'est pourquoi ? C'est pour se tirer d'affaires. Lorsqu'il va trimballer la porte de Gaza sur son dos, qui était énorme, gigantesque, sur une distance assez longue, ça va être pour se tirer d'affaires parce qu'il était chez une demoiselle. À aucun moment, ce capital que Dieu ne lui a donné, il ne l'a réinvesti pour autrui. Et Samson au lieu d'être la lumière, il n'a effectivement été qu'un petit soleil. Même si son nom figure dans le livre des héros de la foi, parce qu'au dernier moment, eh bien, il a cru dans la puissance de Dieu. Il n'empêche que, contraire des autres juges, il n'a pas accompli ce que Dieu avait comme dessein pour lui. Alors, d'accord, nous avons reçu un capital. Ça marche. Comment est-ce qu'on peut l'investir de manière pratique ? J'ai encore un peu de temps ? Non, mais c'est pas grave. La dîme. Dieu nous permet d'avoir quelques finances. Il est normal qu'on lui en rende une partie. Non ? Ça vous choque ? Non ? C'est un principe qui est éminemment biblique, bien que le principe de la dîme ne soit pas présent dans le Nouveau Testament. Mais c'est le principe de générosité qui l'est. Quel est celui qui est le supérieur ? J'en sais rien. À vous de voir. Deuxièmement, le temps. Dieu nous a mis à part, nous a sauvés. C'est pour le servir d'une manière ou d'une autre. J'ai un principe que j'aime bien et que j'essaie d'appliquer le plus souvent possible lorsque j'étais dans le monde du travail. C'est la dîme du temps. Je ne sais pas combien de temps vous dormez, vous enlevez le temps de sommeil que vous dormez. Et puis là-dessus, vous vous dites, ben, chaque jour, je donne 10% de ce temps-là à Dieu. Oh, c'est énorme, hein ? Ça peut être une idée. Dieu a besoin de ton temps, ne serait-ce pour que tu te tiennes devant lui, pour que tu pries avec ton époux ou avec ton épouse. Et vous verrez que si vous réfléchissez, vous trouverez du temps. On en a, finalement. Premièrement, témoignage. Je suis émerveillé parce que, à partir du moment où les premiers chrétiens ont reçu quelque chose de la part de Dieu, qu'est-ce qu'ils font ? Ils le communiquent aux autres. Cette Samaritaine, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va le publier partout, le possédé de Gadara, il va faire exactement la même chose. D'autres voudront s'attacher à Jésus, etc. C'est quelque chose qui était complètement naturel. Lorsque nous avons une bénédiction de la part de Dieu, parlons-en au moins à nos frères et à nos sœurs. Ne la gardons pas pour nous, de grâce. De grâce. Exhortons, faisons bien. Le Seigneur m'a fait du bien, il a fait ci dans ma vie, il a fait ça dans ma vie. Il a exaucé cette prière. Je te souviens, on avait prié ensemble. Je dis, après-midi, il y a une sœur, je lui demande, « Alors, ton oreille, comment va-t-elle ? » ?»« Ah, mais j'oubliais de te dire, elle a été guérie. Tu as prié pour moi, elle a été guérie. » J'avais 30% d'audition en moins, et puis je suis sorti, j'ai pris mon téléphone de l'église, j'ai pris mon téléphone, et j'entendais au téléphone. J'ai été guéri. Mais ça fait du bien. Ça fait du bien d'entendre ça. Communiquons les grâces que Dieu nous donne. Nous parlons tellement de ce qu'il ne nous donne pas. Communiquons, exhortons-nous, faisons-nous du bien. Notre Dieu est magnifique, il est grand, il est puissant. Faisons-le connaître, au moins au peuple de Dieu. Et bien sûr, autour du peuple de Dieu. Nous ne sommes pas le sel qui reste dans sa salière, mais nous communiquons la bonne parole, la bonne nouvelle de l'Évangile également à l'extérieur. Puis nos talents. On y reviendra tout à l'heure. Finalement, j'ai envie de dire que chaque fois que nous gardons pour nous, que nous oublions de réinvestir d'une manière ou d'une autre, on bouche la source. On bouche la source. Il y a un bouchon qui se forme. Chaque fois que nous ne redonnons pas, c'est comme si les bénédictions fraîches étaient bloquées à l'extérieur de notre vie. C'est malheureux, ça. Mon frère, celui qui donne, eh bien, il lui sera donné. Celui qui veut garder, on lui ôtera même ce qu'il a. Tu veux du frais dans ta vie ? Enlève le bouchon. Enlève le bouchon. Donne de ce que tu as reçu. Donne de ce que tu as reçu. Peu importe ton âge, donne de ce que tu as reçu. Et ainsi ta foi sera renouvelée. Le principe de gestion, deuxième principe, je vais passer rapidement dessus, qui sous-tend le principe de gestion divine, c'est le principe de proportionnalité. Je l'aime bien cette phrase. J'aime bien ce principe-là. Et il est notamment vrai pour une chose, c'est le pardon. Luc chapitre 7, verset 48, le contexte, c'est Simon, le pharisien, et puis cette femme qui va venir, eh bien, oindre, enfin du moins répandre du parfum sur les pieds de Jésus. Luc 7, 48, et Jésus conclura de la manière suivante. « Celui à qui l'on pardonne un peu, aime peu. » Simon, le pharisien, aimait peu Jésus, ne lui avait même pas donné de l'eau pour laver ses pieds, ne l'avait pas oint pour qu'il puisse se rafraîchir, parce qu'il n'avait pas la conscience d'être aimé par Jésus, étant donné qu'il n'avait pas la conscience d'être pécheur. Mais cette femme, elle a répandu ce parfum d'une grande valeur devant Dieu. Elle a essuyé les pieds de ses larmes, parce qu'elle avait conscience d'être pécheresse. Quand on a été aimé par Jésus, quand on a été pardonné de beaucoup par Jésus, alors qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? On donne beaucoup. On aime beaucoup. La conséquence du pardon, c'est l'amour. La conséquence de la prise de conscience du pardon, c'est l'amour. Nous savons que le ruisseau de Dieu est plein d'eau et que ses grâces, elles coulent à fleuve, à flot. Que son nom soit béni. Troisième principe, ne négligeons jamais les petites bénédictions. Jamais. Ne négligeons jamais les petits commencements. Ce n'est pas parce que l'on veut quelque chose et que l'on ne l'obtient pas pour une raison ou pour une autre qu'il faut cracher sur ce que Dieu nous donne à côté, ou du moins ne pas le considérer comme étant un miracle de la part de Dieu. J'ai envie de paraphraser Jésus qui dira que si je suis fidèle, celui qui est fidèle dans les petites choses, on lui en donnera de plus grandes. Vous me pardonnerez de remplacer quelque peu les paroles du maître, mais je pense que le sens reste. Si je suis reconnaissante pour de petites bénédictions, peut-être. Peut-être que Dieu m'en donnera de plus grandes. Si j'apprends à me contenter fidèlement de ce que Dieu me donne, peut-être, sûrement, que Dieu me donnera ce qu'il me faut à côté. Conclusion. Je suis béni. Vous êtes béni. Nous sommes bénis. Dieu prend soin de nous. Et je veux vraiment être, et nous voulons vraiment être reconnaissants pour ce que Dieu nous donne. Allez, une fois le 31 passé, parce que je ne me fais guère d'illusions, prenez 5 minutes, 10 minutes, et listez sur un bout de papier, dans votre intimité avec Dieu, tout ce que Dieu a fait pour vous. Et repassez-le sur votre cœur dans la louange, dans l'adoration. Et comme dit ce vieux chant, tu verras en adorant combien les bienfaits de Dieu sont nombreux. Combien le nombre en est grand. Seigneur, deuxièmement, ok, j'ai reçu. Mais est-ce que j'ai toujours donné un retour ? Est-ce que j'ai toujours donné un retour ? Il y a un principe, j'ouvre une petite parenthèse, qui m'a toujours émerveillé, qui a toujours été cher à mon cœur. C'est d'entendre mes parents prier pour moi. Et lorsque je me suis converti, je me suis fait cette promesse. Des hommes et des femmes se sont consacrés dans la prière pour moi, ont été fidèles aux réunions de prière pour moi. L'Église a prié pour moi pendant bien des jours, bien des années. Je ne veux pas en manquer une seule. C'est pas possible. Je ferme. Troisième axe, je ne veux pas négliger les petites bénédictions. Même celles que je n'attends pas. Mais je ne veux pas négliger les petites bénédictions. alors il se passera quelque chose. C'est que dans mon cœur, la bénédiction sera profondément renouvelée. Dans mon cœur, eh bien, tout d'un coup, ma foi trouvera des ailes nouvelles. Et je ne serai plus un enfant, entre guillemets, insatisfait, mais je serai déjà extrêmement content de ce que mon Dieu m'a donné. Je serai extrêmement content de ce que mon Dieu a fait. Je serai extrêmement content et je me satisferai de l'œuvre que le Seigneur a fait dans ma vie. Merci mon Dieu pour tout ce que tu as fait pour moi. Merci et que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit honoré véritablement et que ta bénédiction vive en moi, vive dans mon cœur et me fasse grâce. Dans le nom de Jésus. Amen.